C'est pas nécessairement le mot de la fin, c'est juste... Enfin, on avait essayé cette expression d'une sorte de regard... de désir d'un regard prospectif, hein, c'est-à-dire au terme d'une journée, essayer quand même de regarder vers l'avenir, et c'est extrêmement compliqué, puisque nous avons eu une journée, très riche, et puis qui est partie dans beaucoup de directions, on a déjà pointé un petit peu le fait que les modes de questionnement, évidemment, de la matinée n'étaient pas ceux de l'après-midi, mais je trouve que à chaque fois, plus on essaie de resserrer sur un petit objet, plus on voit que ça ouvre vers des perspectives extrêmement, extrêmement multiples, extrêmement, extrêmement riches. Alors pour ma part, je voudrais juste dire quelques mots qui sont plutôt d'un vécu personnel pour cette journée. D'abord, me réjouir de ce nouveau temps de dialogue entre artistes et marionnettistes, j'aurais comme ça, le mot aurait été prononcé une autre fois, marionnettistes, chercheurs et conservateurs, et puis aussi un peu collectionneurs, on l'a entendu en filigrane. Je crois qu'il y a vraiment une nécessité, effectivement, de continuer de réfléchir ensemble. Je dois aussi annoncer, j'ai envie d'annoncer deux prolongements de cette journée. Le premier, il est devenu classique, c'est les journées professionnelles de Clichy en février, qui sont un mode par lequel les questionnements de la journée de la Bibliothèque nationale sont repris et testés en compagnie de marionnettistes qui viennent présenter des petites formes. Donc c'est organisé par François Lazaro et le classique théâtre, ça aura lieu en février. Et puis un autre prolongement plus, à la fois un peu indirect, mais alors beaucoup plus proche, c'est dans une quinzaine de jours, puisqu'il a été beaucoup question du musée Gadagne, je ferai à mon tour un petit peu de publicité. Le vendredi 26 novembre, il y a une journée qui est organisée là-bas, dont j'ai la responsabilité scientifique, consacrée au retour de Polichinelle. Alors ça a plusieurs échos par rapport à la journée d'aujourd'hui, en particulier un écho qui est celui de faire du musée aussi un lieu de spectacle. Un lieu où, de temps en temps, viennent aussi, devant des spectateurs, des marionnettistes présenter des petites formes. Il y aura quelques grands maîtres de Punch, Rod Burnett, de Pulcinella, Gaspare Nasuto et Bruno Leone. Et puis des chercheurs, et nous pourrons entendre une nouvelle fois, par exemple, John McCormick à cette occasion, mais pour nous parler de Punch. Donc, effectivement, c'est la question du musée comme lieu d'une mémoire vivante, lieu de nouvelles émotions possibles. Enfin, cette expression a été utilisée aussi en début d'après-midi, je suis très sensible. Pour revenir, peut-être en premier lieu, quand même, sur la matinée, je dirais que ce à quoi j'étais plus attentif, c'était sur la question de l'imaginaire des matériaux, et j'ai été très, très heureux à la fois, par exemple, d'entendre Philippe Gentil parler de l'imaginaire, bien sûr, matériel, visuel, dans son aspect du matériau, mais aussi de des modifications de cet aspect grâce à la lumière, ce qui est une autre des dimensions visuelles. Il est évident qu'il y a aussi cet imaginaire sonore du matériau et qui est évidemment pour nous très lié en particulier au matériau traditionnel, surtout au bois, évidemment, qui est très lié au bruit du bois, au bruit de la marionnette. Et du coup, il y a une question qui est restée non évoquée. Nous n'avons pas eu le temps de les poser toutes, mais c'est ce que ces nouveaux matériaux qui sont expérimentés aujourd'hui sont aussi capables de produire de nouveaux sons théâtraux. On a juste entendu un avis très négatif qui était celui de Jean-Pierre Lescot, disant qu'il devait se boucher les oreilles pour ne pas entendre le bruit de certains de ces matériaux. Donc voilà, je crois que tout est à inventer pour trouver effectivement une musicalité ou une rythmicité propre à ces nouvelles matières qui sont en jeu. Je crois qu'il était très important aussi de rappeler évidemment que le matériau doit être mis en relation avec l'interprète. C'est Marcel Violette l'a redit, on ne fait pas exactement la même marionnette pour un danseur ou pour un comédien ou pour un marionnettiste, c'est une évidence. Et puis surtout la question de la relation à la dramaturgie. Mais pour moi, sur, si vous voulez, la, enfin, ce qui était vraiment le déclencheur, c'était surtout cette réflexion d'un manque peut-être de prise en compte de la technique. Et la question de la technique était très importante. Effectivement, l'intérêt de réfléchir sur le matériau, c'est que il nous oblige peut-être à reprendre un peu des catégories qui étaient celles des formalistes russes au début du siècle, quand ils disaient qu'il faut abandonner le fond, la forme, et penser l'œuvre d'art en termes de matériaux, techniques, fonctions. Et je pense qu'effectivement, penser le matériau, ça oblige à penser à la technique. Que ces trois composantes de l'œuvre d'art sont trois lieux d'investissement de l'imaginaire. Il y a un imaginaire des matériaux, on l'a évoqué tout de suite. Il y a un imaginaire des techniques aussi. Jean-Luc Matteoli en a dit quelques mots en parlant de la façon dont le travail du bois évoquait la France plutôt rurale, la France des villages, dont le travail du métal... c'était plutôt la France ouvrière. Alors évidemment, Charles Péguy, plutôt touché par une France rurale, trouvait ce métal ignoble. Aujourd'hui, nous le trouvons noble parce que la condition ouvrière est aussi entrée au musée. Hein. C'est en tout cas celle qui travaillait le métal, hein, la métallurgie. Donc il y a un regard aussi ému, mélancolique sur ce travail du métal. Et par contre, évidemment, les nouveaux matériaux, eux, ouvrent tout à fait autre chose. Mais juste pour illustrer cette question de l'imaginaire des techniques, moi, une chose m'a frappé, par exemple, dans l'évocation qu'a faite Emmanuel Hébel et puis du spectacle de Gilbert Meyer, et quand Gilbert est allé, elle a pu en reparler aussi un petit peu. Enfin, ce spectacle de la compagnie Tohu-Bohu est réalisé en Afrique à partir de métaux de récupération pris sur une décharge. Ce geste de reprendre des métaux, de les retravailler, des métaux abandonnés, pour moi évoquait tout de suite toute la posture des artistes africains contemporains, de ceux qui travaillent, enfin de cette fameuse art des townships, où on travaille effectivement le métal de récupération, les vieux bidons, etc., pour en faire des instruments de musique, pour en faire des sculptures, pour en faire des jouets. Et donc il me semble que le geste de Gilbert était particulièrement juste, parce que non seulement il reprenait ces matériaux qui étaient là disponibles pour faire un spectacle à Kinshasa, mais surtout parce qu'il reprenait aussi des techniques qui étaient celles du lieu même. Et donc il y a aussi à prendre en compte effectivement cette dimension pour moi d'imaginaire des techniques, de ce qu'elles nous racontent. Parce que l'objet est plein d'humains, c'était Catherine Somstet qui le disait, le matériau, lui, peut le devenir, mais il ne le devient que par la technique. C'est la technique, évidemment, qui humanise le matériau, il ne nous faut pas l'oublier. Et donc, je crois que pour ouvrir vers l'avenir, c'est la question des techniques de fabrication, techniques de manipulation qui devra peut-être être reprise. Parce que, voilà, rêver sur des matériaux ou sur de nouvelles potentialités, celles offertes par la physique, comme cette extraordinaire bulle de savon qui nous était évoquée en fin de matinée, c'est jouer quand même des relations de l'enfance avec la science, hein, du léger, de l'infratechnique, la bulle de savon, avec l'extraordinaire potentialité qu'offrent aujourd'hui les nouveaux savoirs de la physique. Donc tout ça n'est pas neutre. Voilà, le choix de matériaux, le choix de techniques n'est évidemment pas neutre. Donc c'est effectivement dans la relation, pour moi, à la technique que naît l'humanité de la matière, que naît sa mise en mouvement, sa théâtralité possible. Alors après, juste pour terminer brièvement, peut-être un bref regard sur la question de la documentation. Effectivement, les musées conservent les marionnettes. Peuvent-ils conserver les techniques ? Peuvent-ils conserver les techniques de manipulation ? Peuvent-ils nous dire quelque chose des techniques de fabrication ? Ça, c'est une question qui me semblerait importante. Et je crois, voilà, personnellement, que la solution de faire bouger effectivement une marionnette virtuelle en 3D peut avoir un intérêt pédagogique et ludique pour pour les visiteurs, mais qu'elle ne nous dira rien du spectacle de marionnettes. C'est-à-dire qu'il suffit de se souvenir de ce que c'est qu'un spectacle de Pulcinella, justement de Bruno Leone, et de sentir de voir le rythme, d'abord la rythmicité extraordinaire du geste, d'entendre les chocs le choc du bois contre le bois. Tout ça, ça ne peut pas se reproduire en 3D, c'est clair. Pour moi, il y a vraiment une nécessité à ne pas couper un spectacle d'abord de son manipulateur. C'est lui qui effectivement va faire que cette matière va devenir vivante, ni même de son public. C'est-à-dire qu'effectivement, reconstituer, comme il était dit, à 20 ans, 30 ans de distance, un spectacle, mon Dieu, ça ne sera jamais reconstitué le spectacle. Les spectateurs ne sont pas les mêmes. Leur imaginaire n'est pas le même, leur réaction, leurs conditions sociales, leur choix, déjà le fait de venir revoir un spectacle. La curiosité d'aller voir la reconstitution d'un spectacle, c'est qu'on n'est forcément pas dans les conditions premières de jeu. J'ai aussi vu, par exemple, le musée de la marionnette à Palerme, des représentations de l'opéra dei Pupi, c'est le seul endroit où je pouvais le voir lorsque j'étais à Palerme. Oui, c'est quelque chose. On voit un peu d'un condensé de ce qu'étaient les spectacles, mais on ne voit pas le public. C'est un autre public, c'est celui des touristes et des visiteurs du musée. Ce n'est pas celui des caves où ça se jouait. Et donc la relation, c'est un spectacle vivant. C'est évidemment à cause de cette présence du public, et celle-ci n'est pas conservable. Donc je voudrais juste terminer là-dessus en disant. Borès, dans une plaisanterie très littéraire et très écrite, évoquait le rêve d'une carte à l'échelle 1-1 qui recouvre la totalité du monde. C'est le rêve de cartographe absolu. Méfions-nous du rêve du muséographe absolu qui serait d'enfermer la totalité du monde, la marionnette, la salle de spectacle, les spectateurs dans la musée. Je veux dire, effectivement, il faut apprendre à faire le deuil de certaines choses. Le musée ne peut être qu'un lieu, d'éveil de l'imaginaire, un lieu de culture, bien sûr, un lieu de confrontation au passé, mais à des traces du passé. Et ces traces, elles doivent effectivement être des traces lacunaires, des traces sélectives, des traces habitées et habitables. C'est habité par un choix et habitable par l'imaginaire de celui qui vient les voir. Je crois qu'il y a absolument cette nécessité-là. Sinon, on est dans un travail de documentation qui peut être énorme, mais qui n'aide ni l'imaginaire, ni même vraiment à la recherche. Je terminerai juste par une anecdote personnelle. J'ai beaucoup travaillé, je suis toujours en train de travailler sur la mise en scène allemande et donc théâtre d'acteurs. Les théâtres allemands, pendant les années 50, 60, 70, avaient des grosses équipes de dramaturgie qui consignaient tout de la fabrication du spectacle. Un travail de mise en scène, de répétition pendant des mois et des mois. Chaque séance de travail, on avait le procès-verbal de tout ce qui avait été échangé là. Et puis des photographies, minute après minute, de chaque instant de la présentation. Je n'ai jamais eu le courage de consulter toute cette documentation. Ce n'était pas possible. C'est-à-dire que réfléchir à partir de ça, c'est plus possible. C'est... Soit on assiste aux répétitions, soit on assiste à la genèse du spectacle, soit on vient après et on n'a plus besoin que de traces sur lesquelles on peut rêver et reconstruire. Sinon, on se noie dans la profusion et de quelque chose qui n'a pas été sélectionné, effectivement. Voilà.